avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et Philippe Munier est avec nous comme chaque dimanche. Bonjour Philippe.
Bonjour Daniel, bonjour à tous.
Alors on parle de trafic sur les routes du monde, etc. Il y a bien peut-être qu'au jardin où on est tranquille, paisible et on peut retrouver un peu de sérénité.
Oui, ça dépend, parce que bientôt, ça va être bienvenue dans mon jardin, puis après, rendez-vous au jardin, puis bienvenue dans mon jardin. Donc là, il y aura encore plein de monde dans jardin aussi. C'est vrai. Ça va être terrible. Donc c'est vrai que on a ce week-end-là, là, pour se, profiter des petites salades qui poussent tranquillement, qui font pas de bruit, qui embêtent personne, hein, qui demandent juste un petit peu d'eau pour vivre, et elles ont même pas la quantité qu'il leur faut, c'est quand même terrible. Ouais. On va faire une pétition, arroser les salades.
Voilà, c'est ça, et également parce que il faut entendre quand même le cri de la salade le soir avant de s'endormir.
Au fond du jardin.
Exactement.
C'est vrai, vous avez raison.
Vous avez les questions. Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Allez-y, on attend vos appels. C'est Anne-Marie qui officie aujourd'hui à l'accueil de France Bleu Armorique. Et notre première question nous vient d'Iraudoire avec Pierre. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Daniel.
Ben oui.
Voilà mon problème, j'ai deux vignes sous abri qui n'ont pas gelé, bien sûr, et je n'ai aucune fleur, aucune grappe en prévision jusque maintenant. Donc maintenant c'est fichu pour l'année. Alors peut-être que je les ai trop fumées avec du fumier de cheval.
Ouais. Ah ça c'est pas impossible, hein. Il faut bien se rappeler quand même que il y a trois éléments indispensables pour la croissance des plantes. Hein. NPK, N l'azote, comme son nom l'indique, P phosphore, ça marche, K potasse, c'est là aussi. Le problème, c'est que à la louche, hein, de manière très schématique, N, le premier, il fait des feuilles, le deuxième, P, il fait des fleurs, K, il fait des fruits. C'est très schématique, mais ça aide un petit peu à se diriger. Plus vous mettez donc de matière organique fraîche, hein, donc le fumier de cheval, donc du N, de l'azote, et plus vous allez faire des feuilles, mais vous allez bloquer, s'il y en a trop, vous allez bloquer la mise à fleurs. Donc, c'est effectivement, si vous avez mis beaucoup de fumier de cheval en vous disant, ah, je vais bien les nourrir, et comme ça, j'aurai des bons gros raisins, eh ben, vous avez fait une grosse erreur. Donc, il faut pas trop nourrir, il faut nourrir correctement, suffisamment, juste pour que les feuilles soient belles, parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même dans les feuilles que se fabrique la sève qui va ensuite nourrir la plante et donc pour forcément faire grossir les raisins. Mais si on en met trop, ben, ça bloque la mise à fleurs. Et là, effectivement, ben, on n'a plus qu'un an à attendre, en attendant que le sol s'épuise un petit peu. Alors, il peut y avoir ça, mais il peut y avoir aussi, parce que même dans les tunnels, il a fait froid cette année, il peut y avoir aussi, parce que, Iraudoire, il a peut-être fait quand même relativement froid, parce que moi j'ai vu récemment, la semaine dernière, dans une vigne, un petit peu dans le centre de Bretagne, une vigne qui avait pris un coup de froid et qui n'avait pas une seule fleur, elle non plus.
Voilà, donc vous avez tous les conseils, Pierre en tout cas, et bon, on espère que tout ça va repartir très vite. On vous souhaite un très bon dimanche.
Pour l'année prochaine, maintenant.
Ah là, bah oui, bah faites de la patience, hein, vous le savez.
D'accord.
Mais vous en avez.
Alors,
vous...
je signe la pétition pour la pluie. Hein.
D'accord, pour la pluie, ça marche. Allez, on va.
Bonne fête à toutes les mamans qui vont me reconnaître.
C'est gentil, bonne fête à toutes les mamans. Merci Pierre et bon dimanche. Michel est à Landevant. Bonjour Michel.
Oui, bonjour tous les deux. Voilà, ma question est toute simple, à moins que ce soit moi qui ai mal compris, mais lors d'une ancienne émission, enfin c'est 5-6 mois, hein, il me semblait que Félix a dit qu'il ne fallait pas utiliser la bouillie bordelaise, que ce n'était plus approprié. Alors si j'ai bien compris, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place ?
Alors, j'ai pas exactement dit ça. L'idée est là, mais c'est pas le contenu. Si, vous avez bien compris l'idée. En fait, le cuivre, donc la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre tamponné avec de la chaux. C'est un produit donc qui contient plein de cuivre. Le cuivre étant un produit de traitement des champignons, un produit de contact, hein, qui donc tue les champignons pathogènes quand ils sont sur les feuilles des arbres, hein, par exemple la tavelure, par exemple la cloque du pêcher, par exemple la moniliose, etc. Mais le problème, c'est que lorsque il pleut et que ce cuivre tombe sur le sol, il va tuer dans le sol les champignons utiles du sol. Et dans le sol, il y a énormément de champignons utiles. Et donc, en tuant les champignons utiles du sol, surtout si on en met trop, très souvent, malheureusement, les jardiniers ont tendance à avoir la main lourde sur les produits, alors que ça devrait être exactement l'inverse. On devrait avoir la main la plus légère possible, parce que sur les boîtes, c'est marqué, ce qui est marqué, c'est la dose maximum autorisée, et la dose optimum utilisable, elle est en général au niveau de la moitié. Donc on devrait toujours diviser par deux les quantités marquées sur les boîtes. Et je connais des jardiniers, enfin j'appelle plus ça des jardiniers d'ailleurs dans ces cas-là, qui ont tendance à mettre le double. Donc voilà, c'est un petit problème de mathématiques qui arrive. Donc si on en met trop, on arrive à avoir trop de cuivre dans le sol, donc un sol qui se dégrade, les champignons utiles du sol qui aident à la nutrition des plantes qui sont morts, donc ils n'aident plus à la nutrition des plantes, donc les plantes ne sont pas en bonne santé, et donc donc elles sont malades, et donc il faut les traiter avec de la bouillie bordelaise et le cycle recommence. Donc on part dans un cercle vicieux insoutenable. Donc c'est pour ça que moi je dis, en ce qui me concerne, et là je dis bien, c'est moi. Moi j'ai décidé de ne plus mettre de cuivre dans mon jardin. Mais après, vous pouvez continuer à en mettre. Mais parce qu'il y a des solutions alternatives qui sont peut-être un petit peu moins efficaces, donc qui font qu'il y aura un petit peu de champignons, mais au moins je ne vais pas bousiller les champignons utiles du sol. Et ces solutions, ça passe particulièrement par toutes les solutions à base de plantes, que ça soit les purins de plantes auxquels j'accorde de plus en plus d'importance parce que je constate d'année en année leur efficacité, et d'autre part des plantes qui sont, enfin un produit qui est de plus en plus intéressant aussi, ce sont les huiles essentielles qu'il faut manipuler avec précaution parce que ce sont des produits dangereux pour notre peau, dangereux pour nos yeux, et que ce sont des produits très efficaces. Donc étant très efficaces, il faut vraiment là aussi manier avec précaution, ne pas surdoser, etc. Mais voilà, il existe des alternatives peut-être un peu moins efficaces, mais qui au moins préservent la santé du jardin, et ça, je trouve ça plus intéressant.
Voilà, Michel, vous êtes bien compris, donc,
oui,
la position.
Vous
n'avez pas le droit.
Moi, c'était pour des plantes tomates.
Oui, mais c'est pas gentil, Michel, parce qu'on a beaucoup de monde. Vous nous rappellerez, d'accord, c'est gentil.
Il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est gentil à vous, parce qu'il y a Marité qui attend. Voilà, je sais bien que c'est pas facile, mais bon, une question, ça appelle aussi une réponse qui est assez longue, et c'est normal. Alors, Marité est à Cesson-Sévigné. Bonjour, Marité.
Oui, bonjour. Moi, je vous appelle. Donc, bonjour, Philippe. Bonjour.
C'est Daniel. Mais il n'y a pas de souci.
Pour un frisier, donc dont les cerises sont très véreuses. Mais je vous appelais pour un phénomène que j'ai observé et que j'avais déjà observé il y a 3-4 ans quand les cerises avaient été également véreuses. En fait, j'ai constaté qu'elles étaient véreuses parce que les oiseaux ne les mangent plus. Et donc, je voulais savoir si c'était quelque chose que vous aviez déjà vu vous-même ou dont vous avez déjà parlé, et pourquoi les oiseaux ne mangent plus les cerises dans ces cas-là. Enfin, il y a des vers dedans.
Bah quelque part, je trouve que vous avez de la chance, parce que moi, ils mangent encore mes cerises, les oiseaux, particulièrement les pigeons, qui sont vraiment les prédateurs, si je puis dire, numéro un de mes cerises. Donc, c'est un phénomène que j'ai pas observé. Par contre, peut-être que certains oiseaux se disent que les cerises véreuses sont pas très intéressantes, et ils ont pas forcément tort. S'ils sont pas, comment dirais-je, insectivores, s'ils ne sont que fructivores, ça doit pas les intéresser de manger de la protéine animale. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça dedans, ou peut-être parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait assez à manger, que c'était pas intéressant. Là, j'ai pas remarqué ça. Par contre, contre la mouche de la cerise, on peut faire des choses. Il existe des produits de lutte biologique. On met des plaquettes dans le cerisier qui imitent l'odeur de Madame Mouche de la cerise, qui fait que tous les mâles se pointent par là, et au lieu de trouver une madame, ils trouvent une bande engluée sur laquelle ils vont se coller, ils vont mourir. C'est pas sympa pour eux, mais ça permet d'imiter de manière assez considérable la quantité de mouche de la cerise. Ça marche plutôt bien. La seule petite le seul petit problème, c'est que quand on met un produit attractant comme ça dans un verger, et souvent les vergers de particuliers sont des vergers très mélangés, il y a des prunes, des pommes, des poires, des abricots, etc., on ne met qu'un seul produit par an. Donc cette année, si vous voulez lutter contre la mouche de la cerise, ne mettez pas des produits contre le carpo caps de la pomme. Si vous mettez quelque chose l'année prochaine contre pas quoi, le carpocalypse de la prune, tiens, bah, vous ne mettrez pas de quelque chose contre la mouche du cerisier. Donc il faut vraiment en mettre qu'un seul par an, parce que sinon c'est le bazar. Il y a tellement d'odeurs que ça ne marche plus du tout. Hein. Mais ce produit existe, hein, et il est plutôt efficace. Donc essayez plutôt d'empêcher les cerises d'avoir des vers, et du coup les oiseaux les mangeront, mais vous aussi peut-être, mais j'espère, oui, en tout cas.
C'est ça l'idée, je pense. Merci beaucoup, Marité.
Merci beaucoup.
Bonne journée et bon dimanche à Cesson Sévigné. On part en musique et puis après, eh bien, on accueillera les nouvelles questions au 02 99 67 35 35.
Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Tête de lard ou tête de con, hommes et femmes, ouvrières et corsaires, de l'âge du fer à la semaine dernière, ils ont fait l'histoire de notre pays.
Alors, tous les jours de l'année, à 6h10, 11h40, 17h45, Ronan Manuel nous raconte ses sacrées têtes de bretons.
Jeanne Jugan, Ernest Renan, Irène Frein, Albert Poulain, de la Bollardière, Réphard de Saint-Pierre, Anatole Lebrun.
Retrouvez les sacrées têtes de bretons sur France Bleu Armorique et FranceBleu.fr.
France Bleu Armorique, au cœur de la Bretagne.
J'accepte par erreur ton invitation, j'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça ira pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison.
Ton invitation, Louise Attaque, sur France Bleu Armorique.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Meunier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et on va parler de salade qui monte dans un instant avec Anne-Marie Dosier qui a des trous dans le centre des feuilles avec Brigitte. Mais tout de suite, Anne à Loudéac, bonjour.
Bonjour.
Alors Anne, qu'est-ce qui vous arrive ?
Alors voilà, j'ai un magnifique rosier là qui font maintenant qui commencent à faire de belles fleurs, mais les boutons sont mangés par des petites fourmis noires. Et je ne sais pas comment m'en débarrasser le plus naturellement possible.
Eh ben on va savoir ça avec Philippe.
Alors, j'ai un petit peu perplexe hein, sur la fourmi qui mange des boutons de rose. Je me demande dans quelle mesure c'est pas plutôt d'autres bestioles, peut-être par exemple des pucerons qui sont en train de pomper activement les boutons, et les fourmis viennent traire les pucerons, ce qui est en général plus leur activité. Ce qui n'empêche quand même qu'au bout du compte, quand il y a trop de pucerons sur un bouton de rose, il y a risque pour le bouton de ne pas éclore du tout. Donc, quoi qu'il arrive, il faut faire quelque chose. Alors, la première solution, celle numéro 1, la plus facile, la plus rapide, celle qui coûte le moins cher, c'est de bien pulvériser de l'eau, toute bête, toute simple, de l'eau de pluie par exemple, avec un petit pulvérisateur qu'on met un peu sous pression, et puis on décolle, on mouille bien sous les feuilles, surtout sous les feuilles et un peu sur les feuilles, et puis on décolle bien sur les fourmis qu'on voit. Ça, c'est la première chose quand il n'y en a pas trop. Après, si vraiment vous avez l'impression qu'il y avait encore beaucoup de monde après un passage à l'eau, vous pouvez faire avec de l'eau savonneuse, soit savon noir, soit savon de Marseille. Savon noir, l'avantage d'être plus gras, et l'intérêt du savon, c'est que comme il est gras, il va envelopper les insectes dans une couche de gras, et comme les insectes respirent par des tout petits pores qu'ils ont sur l'abdomen, ça va boucher les pores et ils vont mourir asphyxiés. C'est pas sympa pour eux, mais ça leur apprendra à venir enquiquiner le rosier. Et puis voilà, c'est aussi simple et bête que ça, sauf qu'il faut le faire plusieurs fois. S'il y a beaucoup de pucerons, s'il y a beaucoup d'insectes, il faut faire en général le traitement à l'eau savonneuse, c'est 3 jours de suite, et puis au bout de 3 jours, on regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y en a encore? Donc on regarde bien sous les feuilles, à la base des boutons de rose. Exactement, on prend une loupe, parce que des fois, ils sont tout petits, ces petites babettes-là. Hein. Ils sont vraiment, des fois, très petits. Donc, on prend une loupe pour bien regarder, pour bien ausculter ce qui se passe. Et puis, s'il y en a encore, on recommence une série de 3 jours jusqu'à...
J'en ai plus,
voilà.
Voilà. Donc, écoutez, Anne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis, on vous souhaite un très bon dimanche.
Je vous remercie. Bonne journée.
Au revoir. Anne-Marie est à Séran. Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour. Je me téléphone au sujet de salade fine de Louviers, qui est presque mangeable. Hein. Je suis allée la voir vendredi soir. Impeccable. Je vais hier matin, elle était montée. Ah. C'est-à-dire, j'ai pas touché, mais elle avait sûrement déjà commencé, mais il y a déjà comme un gros tube, hein, et j'ai tout enlevé. Est-ce qu'il fallait, ou j'ai mal fait, ou bien fait? Parce qu'elle est pas blanche, finalement.
Alors, en fait, le problème des salades, c'est que ça monte.
Moi, je pense que c'est l'orage.
Voilà, absolument, j'allais vous le dire, c'est une question de chaleur. Faut faire attention lorsqu'une salade est prête à être mangée. En fait, il faut diminuer son métabolisme, donc il faut qu'elle se calme un petit peu, et il y a un truc tout bête avec soit un petit transplantoir, soit avec une bêche, on passe sous la salade en biais, donc en fait on coupe les 3/4 des racines, on stresse un peu la salade.
Ce qui fait que ça
le fait de lui couper des racines, comme ça tout d'un coup elle a beaucoup moins à manger, donc elle s'occupe beaucoup plus, si je puis dire, de refaire des racines que de chercher à démarrer sa tige florale, et ça permet de la stabiliser pendant grosso modo 4-5 jours supplémentaires. Alors c'est une petite combine de maraîcher, mais qui est pas inintéressante, parce qu'effectivement on arrive à garder des salades 4-5 jours de plus, mais pas plus. Hein. Lorsqu'elle est programmée pour partir en fleur, pouf, elle part comme une asperge, et puis elle part en fleur. Donc faut vraiment surveiller les salades, et puis faut en garder quelques-unes, une ou deux en fleur, parce que ça va faire des graines, et que les graines ça vous permettre de continuer, si vous faites attention à ce que ce soit pas pollinisé. Puis de toute façon, les salades s'auto-pollinisent très très bien, hein, et ça vous permet de récupérer des graines, plutôt que de les acheter tous les ans à la jardinerie, vous récupérez vos graines, et l'intérêt des graines qu'on a fait soi-même dans son jardin, c'est que ce sont des graines qui sont adaptées au jardin, et donc qui vont en général être beaucoup plus résistantes aux attaques de votre jardin, parce qu'elles sont issues de la terre de votre jardin. On fait ça, nous les jardiniers, depuis la nuit des temps, et il n'y a pas de raison que tout d'un coup ça ne marche plus. Donc on peut faire ces graines, c'est facile à faire, c'est agréable, c'est constructif, et en plus ce sont des graines qui sont mieux adaptées à notre terre, à notre jardin, et donc qui sont mieux pour nous.
Et puis sont meilleurs, forcément. Et ben voilà, Anne-Marie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On vous embrasse et on vous souhaite un bon dimanche.
Bonne journée, merci pour votre émission.
Brigitte à Dinan, bonjour Brigitte.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous arrive?
Eh bien, moi j'appelle pour les rosiers de ma fille. Ils ont de très belles feuilles. Malheureusement, comme l'an dernier, il y a des trous. Comme s'il y avait une bestiole qui les mangeait. Des fois c'est au centre, des fois c'est sur le côté. Mais on dirait réellement que c'est grignoté, ou... et on ne voit pas de bestiole.
Alors, les bestioles, déjà, faut c'est pas stupide, les bestioles, hein. Souvent, elles bossent la nuit de manière à ce que vous risquiez pas de les tuer. Donc, la nuit, elles grignotent, et puis le jour, elles sont cachées, quelque part, soit dans la plante, soit dans le sol, et vous les voyez pas à l'ouvrage. Dans tous les cas de figure, bon, il faut essayer d'identifier la bébête. Alors, quand c'est grignoté, souvent, ça a plutôt tendance à être de l'escargot, de la limace. Souvent, les escargots, parce que la limace monte pas trop dans les rosiers. Les escargots, eux, montent pas mal dans les rosiers. Quand c'est juste coupé sur les bords, et on dirait que l'animal est utilisé à n'importe pièce, ben c'est l'autre churinque, qui est un grand spécialiste des feuilles de rosier, qui aime beaucoup, il aime aussi les feuilles de lilas, d'ailleurs, et les feuilles de fuchsia. Donc là, on dirait vraiment que c'est un emporte-pièce, parce que vraiment, c'est coupé de manière parfaitement nickel, hein, y a pas de petites échancrures. Et puis il y en a d'autres, il y a plein de bébêtes qui mangent des feuilles. Nous on mange bien de la salade, pour ceux qui ne mangeraient pas des feuilles de rosier, franchement. Donc voilà, il faut les identifier. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est donc les fougères sont démarrées. Si vous avez des fougères dans votre jardin, même des fougères d'ornement, mais la fougère règle, c'est mieux. Vous faites un purin de fougère et vous arrosez le pied de vos rosiers avec le purin. C'est un insectifuge, donc il fait fuir les insectes. Donc ça va les empêcher. Ils vont aller voir ailleurs dans le jardin s'il y a quelque chose à manger, et ça va peut-être les dissuader de monter dans le rosier. Mais sinon, tentez le coup de passer à la tombée de la nuit. Souvent, on les voit commencer à bosser, et là, on sait qui c'est et comment on peut agir.
Voilà. Et si c'était un escargot, si le purin est valable aussi
Alors, le purin de fougère a un effet assez intéressant sur les escargots, oui, mais c'est pas tout le temps, donc je vais pas en parler. On constate des choses, mais c'est pas, comme c'est pas régulier dans le temps, le phénomène n'est pas régulier dans le temps. Voilà, il y a encore des études à faire là-dessus.
Voilà, mais en tout cas, Brigitte, vous avez les explications. Je vous souhaite un bon dimanche.
Bonne journée.
À bientôt. 02 99 67 35 35, le Jardin Bleu, Philippe Munier, jusqu'à 10h, encore une demi-heure pour vous, bien sûr.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
France Bleu et le Crédit Mutuel donnent le la à Prodige, le grand concert. Un show exceptionnel, présenté par Marianne James, le 2 juin en direct sur France 2, avec sur scène 10 000 jeunes choristes, 50 danseurs et 100 musiciens. Retrouvez cette semaine dans Paris Match en avant-première le CD des œuvres interprétées lors de ce concert-événement. Carmen, Les Quatre Saisons, Nabucco, Le Lac des Cygnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur francebleu.fr.
Seconds from my heart, a bullet from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound and the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I ourselves in vain, how tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. When I
reached out for your hand. When the walls were caving in, but I see you on the other side. We can try all over again. When I love, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Skin Rag and Bone Man sur France Bleu Armorique.
Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
On va partir à Montour, où on salue l'arrivée de Claude. Bonjour Claude.
Bonjour.
Alors, on écoute votre question, Claude.
Oui, j'ai un pommier de Melrose. Là. L'année dernière, j'avais les pommes qui faisaient jusqu'à 500 grammes. Et l'année, il y a deux ans, et cette année, l'année dernière, là, j'avais les pommes au moins la moitié de véreuse. Je sais pas ce qui se passe. J'ai un pommier de Melrose.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Les vers sont arrivés. Et ça, on n'est pas content. Alors, Philippe.
Alors qu'il soit Melrose ou autre chose, de toute façon, le pommier, il attire un petit papillon qui s'appelle le Carpocaps. Donc, ce Carpocaps, il a une sale manie, c'est de pondre ses œufs à côté des pommes. Et après, le petit asticot, quand il naît, la petite chenille, ben, elle rentre dans la pomme, elle mange l'intérieur de la pomme. Alors, ça commence maintenant. La première ponte a eu lieu maintenant, dans les très, très jeunes pommes. Et c'est là où il faut absolument intervenir. C'est-à-dire que, en général, fin mai, début juin, il se passe ce qu'on a tendance à appeler une physiologique, c'est-à-dire qu'on te dit tiens, il y a plein de petits fruits par terre, mais c'est pas grave, c'est l'arbre qui évacue tous ceux qu'il n'arrive pas à porter, parce qu'il y en avait trop cette année, la floraison a été magnifique, etc. Et en fait, si on regarde bien la moitié, des fois plus que la moitié de ces petites pommes-là, qu'on coupe avec un couteau, ben on s'aperçoit qu'il y a déjà un asticot dedans, ou s'il n'est plus dedans, il a déjà fait son boulot, il a déjà cassé la croûte, et il est parti dans le sol. Dans le sol, il va finir son développement pour renaître quand, devinez, fin août, début septembre en général, ou courant du mois d'août, pour aller du coup pondre sur les belles grosses pommes bien juteuses, bien colorées qu'on a envie de manger. Et là, effectivement, bah, ça fera que des pommes véreuses. Donc la première chose à faire, c'est maintenant, dans les vergers, donc à partir de maintenant et dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, ramasser systématiquement tous les jeunes fruits qui tombent par terre, parce que dans ces, et les brûler, hein, ou les, comment dirais-je, tuer les petits asticots avec un peu d'alcool à brûler. Et puis, la deuxième chose à faire, pour tous ceux, les asticots qui auraient déjà quitté la pomme, qui seraient rentrés dans le sol, c'est de mettre des poules au pied des rosiers, de manière à ce que les poules grattent et cassent la croûte avec les petites chenilles. Et puis, la troisième chose à faire, c'est de mettre dans le verger, à partir de, grosso modo, on va dire, du début août, des pièges dont je parlais tout à l'heure, les pièges de lutte biologique, qui sont spécifiques pour le carpocaps de la pomme, et qui vont vous dire quand est-ce que les carpocaps vont arriver, et éventuellement vous pourrez intervenir soit avec du purin de fougère dont je parlais aussi tout à l'heure, soit éventuellement avec d'autres produits dont je pourrais parler plus tard.
Voilà, vous avez tout noté, Claude. J'espère que ça va s'arranger tout ça. Et puis on vous souhaite bien sûr un très bon dimanche à vous aussi. Direction Liffray où nous attend Odile. Bonjour Odile.
Bonjour. Oui, je vous appelle c'est au sujet des mes courgettes. Elles sont belles, elles sont en fleurs. Et quand la fleur elle a fini, eh ben, elle se fane et elle tombe.
Il n'y a plus rien.
Et ben, j'ai pas de courgettes. Non.
Et elles sont sous tunnel ou courgettes ou elles sont dehors?
Elles sont dehors. Elles étaient sous tunnel avant la pluie, comme il pleuvait beaucoup, énormément et sous tunnel. Mais là, depuis qu'ils ne peuvent plus, là, elles sont dehors.
Alors, en fait, ce qui se passe, hein, c'est, a priori, c'est qu'elles ne sont pas pollinisées. Donc, si elles ne sont pas pollinisées, bah forcément, il n'y a pas de, fruits, parce que ça ne marche, le fruit ne marche que s'il y a pollinisation. La solution, c'est de polliniser vous-même. Sur la courgette, il n'y a rien de plus facile à faire. Hein. Les fleurs femelles sont faciles à repérer. Ce sont celles où vous avez la fleur, puis derrière, on voit déjà les bauges de la petite courgette. Hein, ça fait déjà le début du fruit. Alors que les fleurs mâles, elles sont, il y a une tige toute droite, et puis il y a une fleur dessus. Il n'y a pas de fruits forcément, parce que nous les mecs on n'est pas capable de faire des fruits. Donc c'est comme ça, Daniel, je suis désolé. Donc effectivement, la veille au soir, on se promène dans la plantation de courgettes et on voit les boutons qui sont bien développés, boutons de fleur mâle, boutons de fleur femelle, et donc il suffit de bien les repérer. Le lendemain matin, parce que la floraison a lieu grosso modo entre 9h et midi, lorsque la fleur est bien épanouie, on cueille une fleur mâle. On enlève les pétales, on garde bien le milieu, qui s'appelle le pistil. Et là, on va aller frotter le pistil de la fleur mâle sur le centre de la fleur femelle. Et puis, une fois qu'on a fait la pollinisation, soit on veut absolument garder cette courgette indemne d'autres pollinisations pour faire de ses graines, parce qu'on a le droit de faire ses graines. J'en parlais tout à l'heure pour les salades. On peut les faire aussi pour les courgettes. Et là, on sera sûr d'avoir des graines de la bonne variété. Soit on s'en fiche un petit peu et on laisse la fleur toute ouverte. Donc, soit on veut garder la variété, et avec une petite ficelle, on ferme les pétales autour de la fleur pour empêcher qu'un bourdon ne vienne rentrer dedans, et comme ça le fruit va se former, et dans ce fruit-là, on sait qu'on aura absolument la courgette qu'on avait plantée, donc on pourra récupérer les graines pour l'année prochaine. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais ça marche très très bien, et puis ça vous permet d'éviter d'avoir des courgettes qui coulent comme ça, c'est très désagréable.
Voilà, petit cours d'éducation sexuelle sur la courgette et sa reproduction. Odile, vous avez tout compris, moi j'ai tout compris. Voilà. Oui. Eh ben, bon courage à vous. Merci. Et puis bon dimanche. Au revoir.
Merci à vous aussi.
Direction Isaac Le Christ maintenant avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Philippe. Bonjour Daniel. Bon, moi je vous appelle parce que j'ai un problème depuis que j'ai un terrain là, j'ai fait construire, et il y a du chien dent sur ma pelouse. Donc je suis embêtée parce que d'une année sur l'autre, j'arrive pas à m'en débarrasser. J'essaie d'arracher les touffes là, mais bon, il y a des rhizomes, je suppose, qui restent en terre, et d'une année sur l'autre, ça revient.
Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup de solutions pour vous, parce que le chien dent, c'est une graminée comme les gazons, et donc les produits, même si en imaginant qu'on utilise un produit, ce qui est m'arrive jamais et je vous conseillerais jamais de le faire, mais de toute façon, il n'y a aucun produit sélectif gazon qui puisse tuer que le chien dent sans tuer en même temps votre gazon. Donc, la solution, c'est vraiment l'arrachage manuel, celui que vous pratiquez. Par contre, il faut y mettre du temps. Il faut y passer du temps, en tout cas au moins une année. Je suis un petit peu étonné quand vous parlez de touffe, que ce soit du chien dent, parce que le chien dent, justement, il a tendance à être un petit peu éparpillé partout, ce qui est son côté désagréable, parce qu'il se balade sur des grands rhizomes, un peu partout. Quand il y a des touffes, en général, c'est plutôt d'autres plantes. Alors après, il y en a plein. Il y a tellement de graminées qui se promènent naturellement dans la nature que je ne peux pas vous dire exactement de laquelle il s'agit. Mais il faut vraiment systématiquement arracher comme vous le faites, c'est très bien. Enlever le maximum de racines, et dès que vous avez fini, vous rajoutez un petit peu de terre, vous remettez une graine de votre gazon à vous, que vous êtes sûr que c'est celui que vous voulez avoir là, non mais des fois, éventuellement un petit peu de compost, vous tassez bien soit avec le pied, soit avec une petite planche, de manière à ce que ça soit ce gazon-là qui domine en permanence. Et il y a malheureusement que ça pour vraiment arriver à avoir un beau gazon à peu près régulier. Il y a ça, et puis il y a aussi de faire très attention de ne pas tondre trop ras votre pelouse. C'est très important. Une pelouse ne doit jamais être coupée en dessous de 6 cm. Hein, c'est vraiment très précis. Et même l'idéal, c'est 6,5 cm. Parce que plus vous allez couper ras, plus vous allez la fragiliser. Et plus elle sera fragile, plus d'autres plantes pourront se développer au milieu et supplanter votre gazon. Donc faites attention à bien tondre suffisamment haut, régulièrement mais haut, de manière à fatiguer beaucoup plus les autres plantes et garder votre gazon, vous, par contre, en bonne santé.
Eh ben voilà les belles astuces qui vont vous aider à avoir une belle pelouse, Anne. On vous embrasse et bon dimanche. 02 99 67 35 35. Il nous reste peut-être encore le temps d'avoir deux questions avant 10h sur France Bleu Armorique.
Vous avez les questions ? Il a la main verte.
Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison? Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle. Eco-TDS organise pour vous les journées déchetterie. Samedi 3 juin de 10h à 17h, rapportez vos déchets chimiques sur les parkings Leroy Merlin de Saint-Brieuc à Langueux et de Vannes à Teix. Si tu ne vas pas à la déchetterie, les journées déchetterie viennent à toi. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com.
Des engueulades, des retrouvailles à la bougie. Il nous faut du vent, un peu de pluie, de longues balades et pas de bruit. Non, pas de bruit.
I know what you mean, thinking of us. We're in a bar, people are just looking at you as usually. And why do you care? Is it too much? I need to know if I'm needed. You and I, close together, a new dimension. But if we're there, we will succeed.
Il nous faut aussi un génusé que l'on partage. Deux, trois secrets d'enfants passage. Il nous faut l'envie de rendez-vous. Un très grand lit, sans rien.
Tovati, avec la complicité de Tom Dice, il nous faut.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et vos dernières questions avant 10h sur France Bleu Armorique, à Fougères, où nous avons René. Bonjour René. Oui,
bonjour.
Alors.
Bonjour, je voudrais vous poser une question. J'ai fait du purin d'ortie pour la première fois. Et on m'a donné des quantités de 10 litres pour 1 kg d'ortie à macérer. J'ai fait macérer 10 jours. Et j'en ai mis pur au pied des tomates. Et on m'a dit qu'il fallait pas, qu'il fallait diluer. Mais alors la quantité de diluer, c'est quoi?
Oh là là. Alors déjà, si vos tomates ne sont pas encore mortes, c'est que vous avez de la chance, première chose. Parce qu'effectivement, le purin d'ortie pur, c'est a un effet désherbant. dans un premier temps, parce qu'après c'est pas pareil, mais dans un premier temps ça tue par excès d'azote. Donc si, bon, heureusement que la tomate aime bien l'azote, mais il faut quand même pas exagérer. Alors la dilution, lorsque on a fait donc un purin d'ortie, 1 kg de plantes dans 10 litres d'eau, ça c'est très bien. La deuxième chose, c'est pas une question de 5 jours, 10 jours ou 3 semaines, c'est une question de fermentation, et la fermentation c'est une question de température. Donc on brasse tous les jours, tant que ça fermente, ça fait, quand on brasse, ça fait de l'écume. Le jour où la fermentation est terminée, mais ça peut être au bout de 5 ou 6 jours, hein, la mousse, l'écume se forme, puis retombe immédiatement. Ça veut dire que la fermentation est terminée. Ce jour-là, on filtre, on met en bouteille, remplie à ras, à l'abri de la lumière et de la chaleur, et ensuite on filtre, on dilue, à raison d'un volume de purin d'ortie pour 9 litres d'eau. Hein, donc c'est une dilution au dixième, c'est énorme. Hein. Donc il faut faire très très attention, parce que si vous en mettez trop, les tomates, peut-être qu'elles vont s'en remettre et vous aurez de la chance. Par contre, il y a tout un tas de légumes qui, eux, ne s'en remettront jamais si vous les mettez du purin d'ortie pur.
Voilà, donc vous avez bien noté la dilution, c'est bon ?
Oui, ça y est, je vous remercie beaucoup.
Eh bien, à votre service, René, bonne journée à vous, au revoir. Ouais. Claude est à Liffray, bonjour Claude.
Grand, grand bonjour. Oui, donc moi, je viens d'arriver et puis alors, je surveillais mes artichauts, parce que tous les ans, pourtant, là, c'est les rejets, je les ai mis à un autre endroit, parce que je sais qu'il faut les transplanter. Mais ils ont à nouveau des fourmis. J'ai un artichaut, par exemple, qui est la taille à peu près d'une balle, de tennis. Et puis voilà, on voit bien, ça vit dedans. Hein.
Ouais.
Et puis, bien sûr, dans les creux des feuilles qui sont tendres. J'avais pensé les couper avant, parce que j'avais remarqué qu'il y en a, que ça commençait avant que je parte. Je pouvais rien faire autrement. Et voilà.
Comment on peut faire, Claude. On va donner la parole à...
S'il y a fourmis, c'est qu'il y a pucerons. S'il y a pucerons, il faut tuer les pucerons. Donc le puceron noir de l'artichaut est un puceron assez casse-pied, parce qu'il est assez tenace. Par contre, il y a un purin qui le décolle à tous les coups. Ça marche très très bien. C'est le purin de feuilles de rhubarbe. Alors je vous déconseille de le boire, parce que c'est très toxique, mais ça tombe bien, ça permet de tuer les pucerons. Et ce n'est pas toxique quand on mange artichaut après, parce que, comme je le répète régulièrement, les molécules toxiques naturelles s'oxydent très rapidement, donc perdent leur toxicité, alors que c'est pas pareil pour toutes les cochonneries chimiques qu'on invente, qui, elles, restent stables. Donc, il n'y a aucun problème. Faites un purin de rhubarbe, 1 kg de rhubarbe, 10 litres d'eau. Alors, vous pouvez faire 100 grammes par litre, parce qu'il ne va pas falloir beaucoup. Il va peut-être falloir 2 litres, suffiront sans doute largement. Donc, 200 grammes de... dans 2 litres d'eau, pas toujours pareil, on fait fermenter 3, 4, 5, 6, 8 jours suivant la température. Dès que c'est la fermentation terminée, vous filtrez, vous mélangez, donc pas toujours pareil, un volume de purin dans 9 litres d'eau, vous pulvérisez abondamment vos artichauts. Vous pouvez le faire 2 à 3 jours de suite pour vraiment que ça rentre entre toutes les petites folioles, enfin les fausses feuilles, hein, de l'artichaut, pour bien aller oxyre les pucerons qui sont cachés au fond. Et puis une fois que vous aurez fini, vous attendez 24 heures avant de les cueillir pour les consommer.
Voilà, vous avez tout noté.
Bon. Dans l'urgence, mon purin n'est pas fait.
Dans l'urgence, le purin n'est pas fait, faites de l'eau savonneuse.
Voilà.
D'accord.
Voilà. Ça va vite.
Mais prévoyez pour après, comme ça, les autres années, vous aurez des beaux artichauts. On va faire une petite pause et puis on va retrouver quelques conseils pour savoir où on peut sortir, où il y a des fêtes, où on peut aller voir de beaux jardins. Ce sera tout de suite après Calogero.
Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur d'eau. Ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça. 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique. Je réfléchis musique. Je pleure aux musiques. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique. Je sens la musique. Je fais l'amour en musique. Je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare.
Géraud et son nouveau titre, il fait de la musique.
Mettez-vous au vert avec Philippe Munier.
Et pour se donner rendez-vous dimanche prochain, avant de dire au revoir à Philippe, on va vous faire part de quelques manifestations dans les jardins, ou tout, en tout cas, avec des bonnes choses qu'on peut recueillir dans le jardin. Et Philippe, peut-être direction Lancieux pour ce week-end ? Ah, nous avons un petit problème de liaison, j'ai l'impression, avec notre ami Philippe qu'on va essayer de rejoindre tout de suite. En tout cas, en attendant, eh bien, moi je vous propose d'aller faire un tour à la fête de la fraise aujourd'hui, c'est dimanche. La fête de la fraise, c'est à Plumeloc, en Ille-et-Vilaine, pas très loin de Bédé en tout cas. Et les parents d'élèves vous attendent bien sûr nombreux pour cette grande manifestation. 21e anniversaire de la fête de la fraise de l'école Saint-Melaine de Plumeloc, et en plus une fête qui est placée cette année sur le thème de la fraise d'antan, avec plein d'animations, puis surtout vous allez pouvoir déguster d'excellentes confitures. Et Philippe, que nous avons retrouvé, nous on va à Lancieux maintenant.
C'est ça, on va à Lancieux pour la traditionnelle fête des plantes de Lancieux, avec des producteurs régionaux qui proposent des plantes de bord de mer, des rosiers, des arbustes. Enfin, tout ça, c'est de 9h à 18h. Donc, vous voyez, vous êtes déjà en retard. Donc, jusqu'à 18h ce soir. Et puis, essayez de passer entre deux orages, ça sera une bonne idée.
Voilà, et puis, je propose également la fête des plantes. Ça, ce sera pour le dimanche 4 juin dans le canton de Combourg. Grand rendez-vous à Cardrock, exactement, près de Combourg, donc Cardrock pour cette fête des plantes. Et il y a des invitations à votre disposition, je dis ça en même temps à Anne-Marie, j'ai des invitations pour vous, pour cette fête des jardins à Cardrock, au 02 99 67 35 35. Merci Philippe.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Et puis bonne fête à toutes les mamans, évidemment.
Voilà, toutes les mamans plantes, les mamans artichauts, les mamans.
Voilà, les mamans courgettes.
Maman courgette, voilà.
Et, ouais.
Et puis, on vous souhaite un très bon dimanche, en tout cas. Merci Philippe, à la semaine prochaine, au revoir. Avec vous.
Le week-end, je me balade chez vous. Si vous organisez des rendez-vous festifs, culturels, sportifs, humoristiques, dites-le nous et nous ferons la fête tous ensemble.
Retrouvez Félix Legrand, le baladeur de France Bleu Armorique, le samedi de 10h30 à 11h et de 11h30 à midi, le dimanche de 10h30 à 11h.
Dimanche à toutes et à tous, il est 10h. 10h, le point sur l'actualité, Théo Hetch.
Des flammes en plein centre-ville de Dinan cette nuit. Une maison à pan de bois a pris feu dans le centre historique de la ville. Le feu s'est propagé dans la maison située rue Mitry, tout près des Halles. Il n'y a pas de blessés, mais 5 personnes vont devoir être relogées. Et les dégâts sont colossaux. Entre 6 et 10 appartements sont détruits. Près d'une soixantaine de soldats du feu sont intervenus. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie. Plus de détails et des photos à retrouver sur francebleu.fr. À Cancale, au nord-est de Saint-Malo, un nageur est mort. L'homme de 45 ans se baignait au large de la plage du Petit Port quand il s'est noyé. Les secours ont été appelés peu avant 14h. Son corps avait été repêché par des plaisanciers.
Et puis il va y avoir Théo du monde sur les routes.
Retour du week-end de l'Ascension oblige. La journée est classée rouge dans le sens des retours. C'est même noir entre la Bretagne et Paris, ainsi qu'entre la Normandie et Paris. Le pic est attendu entre midi et 21h, donc mieux vaut prendre la route maintenant ou alors tard ce soir. Un gros accident justement hier près d'Entrain dans le Nord-Ille-et-Vilaine. Deux hommes de 75 et 90 ans sont décédés hier après-midi après un choc frontal. L'accident s'est produit vers 14h15 sur la départementale 296. C'était à hauteur de la commune de Saint-Ouen-les-Rouairies. Les deux voitures se sont percutées de face sur une ligne droite. Une femme de 73 ans est très gravement blessée et hospitalisée au centre hospitalier de Pontchaillou. Tout cela est à retrouver également sur notre site francebleu.fr.
Quant à eux, ils tentent d'éviter le crash, les candidats aux législatives.
Eh oui, les aspirants députés battent la campagne. Le vote, c'est dans 15 jours. Et pas facile de convaincre des électeurs très méfiants vis-à-vis de leurs députés. Avec les affaires Fillon ou Ferrand, un climat de suspicion pèse sur les marchés. Reportage à Vitré, c'est la 5e circonscription d'Ille-et-Vilaine, où la députée sortante Isabelle Le Callennec fait face à de nombreux candidats, Sarah Mansoura.
Oui, même sous le soleil, les candidats tendent inlassablement les tracts à leur effigie. Sylvie vient de mettre un de ses petits papiers dans sa poche. Cette électrice les relira tous, même si elle estime déjà connaître les programmes.
Le choix, il est quand même limité entre